Mais il est 8h. Et à la une ce matin, donc, ce vote prévu aujourd'hui du décret-programme tant contesté dans le monde enseignant.
Oui, le parcours législatif du décret devrait se terminer aujourd'hui au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais rien n'indique par contre que ce soit la fin du mouvement de protestation dans les écoles. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, mais que vaut l'annonce de cet accord s'il est conditionné à la fin des tirs du Hezbollah ? En Allemagne, une femme se bat pour que les viols dont elle a été victimes ne soient pas prescrits. Le monde de Claudia Wuttke s'est effondré quand elle a été convoquée par la police pour identifier une femme violée pendant des années, et cette femme, c'était elle. Demi-finale dames aujourd'hui au tournoi de tennis de Roland-Garros. 4 championnes d'Europe de l'Est, dont une Ukrainienne qui affronte une Russe.
La météo du jour avec Théo Le Chanu.
Une alternance entre passages nuageux, éclaircies et quelques précipitations. Voici le programme pour aujourd'hui, avec des averses qui pourraient prendre d'ailleurs un caractère orageux en après-midi. Côté température, 11 à 14 degrés pour ce matin, pas plus de 15 à 19 pour cet après-midi.
C'est François Kirsch qui vous présente votre journal de 8 heures. Bonjour François.
Bonjour.
Les syndicats appellent tous les professeurs à la grève aujourd'hui.
Et car ce jeudi doit avoir lieu le vote sur le décret programme au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce décret contre lequel le monde enseignant se mobilise depuis des semaines. Des profs seront là, en tout cas aujourd'hui, devant le Parlement pour exprimer une fois encore leur colère. Et ce ne sera pas la dernière fois, même si le texte est adopté. Bénédicte Mertens, qui enseigne les sciences sociales.
Si certains pensent que suite au vote, on va se calmer et qu'on fait vite le vote en se disant, ben voilà, maintenant les enseignants vont entrer gentiment dans leurs écoles. Je pense que c'est tout l'inverse. On prépare déjà la rentrée, on prépare des actions pour les vacances, on est plus que déterminés.
Une interview de Tidiem Kouach. Des actions sont organisées un peu partout dans les écoles aujourd'hui. Nina Zanata, vous êtes à la Louvière, devant l'école Sainte-Marie, et sous vos yeux, une chaîne humaine.
Alors vous les entendez hein, sans doute, les voitures klaxonnent pour soutenir les professeurs. Ils sont une centaine à se tenir la main ce matin. Des profs en colère et inquiets pour leur avenir. Les enseignants de 3 écoles manifestent ici devant les écoles, devant l'école Sainte-Marie. Tout réseau confondu, c'est assez rare. Ils se mobilisent pour s'opposer au décret qui prévoit d'acter les mesures d'économie dans l'enseignement. On ne se sent pas écouté, pas respecté. Une société qui ne valorise pas l'enseignement, c'est une société qui va mal, disent les profs. Une jeune enseignante d'ailleurs me disait ce matin, j'ai un diplôme en poche, mais je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas comment l'année prochaine va se dérouler. Alors les cours ici vont se poursuivre, pas d'annulation d'examen non plus, mais dans d'autres établissements c'est le cas. Certaines directions ont déjà prévenu les parents, ils ont pris les devants, notamment du côté de Mons et de Tournai.
Nina Zanata, la Louvière, devant l'école Sainte-Marie, et cette chaîne humaine formée par une centaine d'enseignants. Le texte soumis au vote aujourd'hui prévoit des mesures d'économie dans l'enseignement, avec notamment les 2 heures en plus en classe pour les enseignants du secondaire supérieur, sans être payés plus. Marc Sirleroy a rencontré 2 directeurs inquiets de l'impact de cette mesure.
Julien Baudouin, directeur de l'Athénée provinciale de Morlanwey, de 2 écoles du qualifiant adossées à l'Athénée. En tout, il compte 216 personnes pour le personnel éducatif et il a déjà fait ses calculs.
On est sur un peu plus d'une vingtaine de profs qui sont en réduction d'heures, voire plus d'heures du tout pour l'année prochaine.
Comment ça va se passer pour eux ?
L'agent a 2 solutions. Soit il va prendre des heures vacantes dans d'autres établissements, mais on connaît tous la même chanson, donc c'est un peu compliqué, au degré supérieur, ou alors il va prendre des heures dans la même école, au degré inférieur, avec la même rémunération, mais là il va au degré inférieur pour donner son cours.
Même constat au collège Saint-Joseph de Chimay, commune un peu décentrée dans la botte du Hainaut, d'où l'inquiétude pour le directeur Samuel Losange de voir des enseignants difficilement retrouver des heures ailleurs.
Chaque professeur qui va devoir prester 2 heures en plus en laissera moins pour les autres, et souvent ce sont des jeunes profs que nous avons choisis et qui ont des vraies compétences. Rares sont ceux qui vont tout perdre, mais un enseignant qui, comme moi, travaille à Chimay et qui n'a pas les 4 ou 6 heures qui lui manquent pour compléter une charge, où va-t-il aller les chercher ces heures-là? Ça ne va pas aller à Charleroi ou Tournai ou Binche pour chercher les 4 heures manquantes.
Et tous deux insistent également sur la complexité, vu ce contexte, de boucler les horaires pour l'an prochain.
Ces deux heures en plus sans être payées plus dans le secondaire supérieur, la ministre Glatini a répété hier dans Les Clés sur la première, que vous pouvez d'ailleurs réentendre sur Ovio. Elle a répété que c'est une mesure budgétaire et de lutte contre la pénurie d'enseignants et que, étant donné cette pénurie, aucun emploi ne sera perdu, selon la ministre, qui explique que les enseignants qui perdent des heures devront peut-être combler avec quelques heures dans le degré secondaire inférieur ou dans d'autres écoles. Après les orages du week-end dernier, l'eau potable coule de nouveau des robinets à Nivelles. Toujours pas par contre dans les entités de Jemmet, Pam-sur-Sambre, Ouvelet et Velaine-sur-Sambre. Les derniers résultats des analyses ne sont toujours pas satisfaisants. La société Wallonne des Eaux renforce le nombre de points de distribution en eau potable.
Matin première, il est 8h06. Entrer en maison de repos, ce n'est pas toujours une étape facile à franchir.
Pour de multiples raisons communes à toutes et tous. Mais pour les personnes LGBTQIA+, s'accompagne la crainte d'être jugé. Certains résidents font le choix de cacher ce qu'ils sont et qui ils aiment. Reportage dans la maison de repos Clos Bizet à Anderlecht.
Jacques, 82 ans, est entré ici en 2017. Il était accompagné de Paul, son compagnon. Cela faisait 34 ans qu'ils vivaient ensemble.
Chacun sa chambre, on se voyait tous les jours.
Vous avez dit que vous étiez des beaux frères.
Oui.
Vous avez eu peur en fait de dire que vous étiez un couple et donc du coup on vous a donné deux chambres séparées.
Oui.
Paul est décédé il y a 4 ans. Puisque leur relation est têtue, Jacques réalise alors qu'il n'a pas voix au chapitre pour gérer l'après.
Et là, on a compris, de par sa réaction extrêmement émotionnelle, que c'était plus que juste un beau-frère.
Catherine est référente ici en matière de vie intime, affective et sexuelle. Elle veut rendre les maisons de repos plus accueillantes pour les personnes LGBT.
Il y a cette réaction, mais oui, mais ces gens-là, il n'y a pas chez nous. Il n'y a pas, effectivement, si les gens ne se sentent pas en sécurité. Il suffit d'installer un climat où les gens sentent que c'est queer friendly et puis que tout d'un coup, tu réalises qu'il y a plein de gens dans la maison.
Elle collabore avec les Rainbow Ambassadors, une association qui défend les seniors LGBT. Hilde Greff, la coordinatrice, fait le constat qu'ils ne peuvent pas entrer dans toutes les maisons de repos.
On peut donner des formations en tout à 3 maisons de repos, tu vois. Et les autres, pas de nouvelles, ou on a téléphoné, c'était pas nécessaire.
Même si la société a permis une évolution des droits pour les personnes LGBT+, selon les associations, il reste encore du chemin à faire dans les mentalités, entre autres dans les maisons de repos.
Reportage Anderlecht de Tom Denis. La Belgique a restitué à la France plus de 300 documents d'archives qui lui avaient été dérobés. Le voleur était un collectionneur carolo passionné de Napoléon. Les explications de Jean-Christophe Willems.
C'est l'histoire de Jean Génaud, un septuagénaire de Fleurus, fan d'objets d'époque napoléonienne. Sauf que dans sa collection, les enquêteurs ont retrouvé plus de 300 archives dérobées en France et en Belgique. Le voleur, qui revendait certaines pièces sur Internet, a été condamné l'an dernier. 309 lots viennent d'être remis aux autorités françaises. Xavier Lapeyre de Cabannes est ambassadeur de France en Belgique.
Le vol d'archives, le trafic d'archives, c'est pas très connu, c'est pas aussi spectaculaire que le vol d'objets d'art. Or, c'est quelque chose qui est grave, parce que d'abord, c'est un vol, et ensuite parce que c'est quelque chose qui est soustrait à la connaissance. C'est la matière première de la recherche historique.
On ne peut en effet pas détenir de documents publics originaux chez soi. Même votre registre d'état civil ou vos actes notariés sont publics et vous n'en avez que des copies. Les dérober est passible de poursuites. Vanessa Matz, ministre fédérale de la politique scientifique.
Ce que le jugement dans cette affaire-ci rappelle, c'est que ce bien, il est inaliénable et imprescriptible, ce patrimoine. Et donc, peu importe qu'on l'ait acquis de bonne foi, peu importe que ça date d'il y a 200 ans via la famille, etc., il doit être remis à l'État.
Les archives de l'État belge comptent 400 km de rayonnage. Toutes ces archives ont de la valeur, si pas pécuniaire, au moins historique.
En Allemagne, une affaire judiciaire secoue l'opinion publique.
De par la nature des faits, mais aussi parce que cela ravive le débat sur le délai de prescription pour viol. Claudia Wuttke accuse son ex-mari de l'avoir droguée, violée et filmée pendant plusieurs années. Le récit de Maxime Maillet.
Le cauchemar de Claudia Wuttke commence il y a un an. Cette écrivaine de Hambourg, âgée de 59 ans, est convoquée par la police pour identifier une femme.
On a étalé devant moi 4 ou 5 feuilles avec des captures d'écran en noir et blanc. On y voit une femme manifestement hébétée et sous sédatif. Elle était inerte et incapable de parler, les yeux mi-clos. Elle a été violée de diverses manières et cette femme, c'était moi.
C'est le choc pour Claudia. La police a retrouvé sur l'ordinateur de son ex-mari 67 vidéos vidéos sur une période de 16 ans. Elle y subit des violences sexuelles commises par son ancien compagnon. Elle ne se souvient de rien, elle pense avoir été droguée. Après 5 mois d'enquête, le monde de Claudia s'effondre de nouveau. La plupart des faits sont prescrits.
Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas simplement rester là, humiliée, abandonnée par l'État et m'y résigner. Au nom de ma propre dignité, il m'est apparu très clairement que je devais me battre pour sauver mon âme.
Et Claudia a obtenu une première victoire, la réouverture de l'enquête sur les 65 viols classés. Mais la menace de la prescription pèse toujours en Allemagne. Le délai de prescription pour des viols commis sans circonstances aggravantes est de 5 ans.
En Belgique, le délai de prescription est de 10 ans. Pour les victimes majeures, pour les victimes mineures, il n'y a pas de délai de prescription. Israël et le Liban annoncent qu'ils ont convenu d'un cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui sera subordonné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah, ce mouvement libanais soutenu par l'Iran. Cyril Michaud, que dit exactement cette déclaration de cessez-le-feu ?
L'accord survenu après 2 jours de pourparlers à Washington comporte plusieurs conditions. Tout d'abord, l'évacuation de tous les combattants du Hezbollah du sud du Liban et, vous l'avez évoqué, l'arrêt des tirs du groupe paramilitaire. Les deux parties ont également convenu, avec l'appui des États-Unis, de créer des zones pilotes, des zones dans lesquelles les forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, sans force non étatique, entendez par là à nouveau le Hezbollah. Pour l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yeriel Leiter, c'est le point important de l'accord.
Nous avons fait comprendre au peuple libanais que nous ne sommes pas l'ennemi, c'est le Hezbollah qui l'est. Et maintenant, nous allons travailler ensemble pour débarrasser le pays de ce groupe pro-iranien à la frontière d'Israël, qui prive Israël de sa sécurité et le peuple libanais de sa liberté. Je pense que c'est là notre réussite.
Un cessez-le-feu était déjà censé être en vigueur entre Israël et le Hezbollah depuis le 17 avril, mais il a été largement bafoué. Israël a d'ailleurs intensifié et étendu ces derniers jours son offensive, suscitant des risques que ces combats ne contribuent à un nouvel embrasement de la guerre au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie iranienne avait prévenu que toute attaque contre la capitale libanaise entraînerait une reprise à grande échelle de la guerre dans la région. Un média d'État libanais a d'ailleurs rapporté des frappes israéliennes ce matin après l'annonce du cessez-le-feu.
On notera aussi que le Hezbollah n'a pas encore réagi à cette dernière annonce de cessez-le-feu. L'Ukraine sera-t-elle un jour européenne ? Il y a encore un très long chemin semé d'embûches. Mais puisque le pouvoir a changé en Hongrie, eh bien le veto hongrois tombe. Et tous les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour ouvrir un premier chapitre de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Et la Moldavie aussi. À Roland-Garros, place aux demi-finales féminines cet après-midi. Marta Kostiuk sera opposée à une adversaire russe, Mira Andreeva. Marta Kostiuk, qui est ukrainienne et qui, contrairement à son adversaire du jour, parle de la guerre, dénonce l'offensive russe, même si cela doit rester en dehors du terrain.
C'est certain, je me suis beaucoup améliorée sur ce plan. En général, je ne me soucie plus de savoir qui est de l'autre côté du filet. Je suis là pour jouer au tennis et faire mon travail, un point c'est tout. En face, ce sont des adultes, elles savent de quoi elles parlent, elles savent ce qui se passe. Elles ont des téléphones, elles ont Instagram, elles ont accès aux informations. Elles sont parfaitement conscientes de ce qui se passe. Si elles préfèrent ne pas en parler, c'est à elles de vivre avec cela, pas à moi. Que puis-je dire ? Elles ont choisi une stratégie qui leur convient. C'est comme cela, je ne peux pas faire grand-chose. J'aimerais qu'elles aient une position plus claire, surtout quand un pays tue des gens d'un autre pays. Je ne sais pas comment elles peuvent dormir tranquilles en sachant tout ce qui arrive et en ne disant rien. Je ne peux pas dire grand-chose de plus.
Dans l'autre demi-finale, encore une Russe, Diana Schneider, qui affronte la Polonaise Maja Gwalinska, issue des qualifications. C'est à suivre cet après-midi sur les médias de la RTBF. Dans le tableau masculin, il y aura de toute façon un Italien en finale, puisque demain, en demi-finale messieurs, donc Flavio Cobolli joue contre son compatriote Matteo Arnaldi, et puis le Tchèque Mensik affrontera l'Allemand Zverev.
Merci beaucoup François Kier.